Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wegmans. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Laurence Ronghi. Laurence Ronghi est professeure ici à l'ULB, professeure de chimie, et elle travaille actuellement sur toute une série de processus de capture et de stockage du CO2. Tout ceci, évidemment, dans un objectif lié à tous les problèmes qui découlent du réchauffement climatique. Voilà, je lui laisse la parole donc dans quelques instants. Laurence Ronghi.
Je m'appelle Laurence Ronghi et je suis professeure de chimie à l'ULB. Et donc je travaille sur tout ce qui est modélisation des procédés réactifs et des procédés de transport dans différents types de systèmes, notamment tout ce qui est en lien avec la capture et le stockage du CO2.
Effectivement, Laurence Ronghi, c'est pour parler de ça exactement qu'on se voit aujourd'hui, puisque vous avez participé à la journée de présentation de recherche qui précédait la COP29. Votre travail est concentré sur la captation du CO2. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, alors moi ce sera plus sur le stockage, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Donc concrètement, l'idée ce serait, enfin c'est déjà, parce que ça se fait déjà actuellement, d'aller capter le CO2, donc soit directement dans les gaz de combustion, c'est généralement ce qui se fait, soit là il y a un domaine de recherche qui s'intéresse à aller le capturer directement de l'atmosphère. Donc ça c'est un peu plus compliqué parce que les pressions évidemment sont plus faibles dans l'atmosphère qu'elles ne sont dans les gaz de combustion. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller le capturer, donc le séparer des autres gaz de combustion, et ensuite de le transporter, donc soit dans des pipelines, soit via des navires, et d'aller ensuite le stocker dans des formations géologiques, donc dans les sous-sols. Et là, il y a différentes possibilités qui sont envisagées. Donc on peut penser à des aquifères salins. Eux, ils ont le grand avantage d'être distribués de manière presque uniforme dans le monde. Donc, il y a énormément d'aquifères salins disponibles. Et on parle vraiment d'aquifères salins où l'eau est trop salée pour pouvoir être utilisée comme eau d'irrigation ou comme eau potable, évidemment. Hein. Donc, l'idée n'est pas d'aller le mettre dans les réserves d'eau naturelle. D'autres endroits possibles sont, par exemple, les anciennes nappes de pétrole, les anciens champs miniers, les roches basaltiques. Donc, il y a différents sites de stockage géologique qui sont envisagés.
Si on remonte en arrière, d'où est venue cette idée d'abord d'aller extraire le CO2 et puis de l'entreposer quelque part ?
Oui, malheureusement, comme tout le monde est au courant, on sait qu'il y a les problèmes de réchauffement climatique et d'augmentation de l'effet de serre. Donc l'effet de serre en lui-même n'est pas un problème, le problème c'est l'augmentation de cet effet de serre. Et donc, on a remarqué que la concentration du CO2 atmosphérique était passée de 280 parties par million avant la révolution industrielle à maintenant plus de 420 ppm. Et donc, on parle d'un facteur 1,5 et cette augmentation est exponentielle. Donc, on peut relier ça aux augmentations de la température et donc à tous les phénomènes climatiques qui en découlent. Donc évidemment, l'idée est d'aller limiter, d'aller réduire cette concentration atmosphérique de CO2. Et là, il est clair qu'il faut développer toute une série de solutions en parallèle. Il ne va pas y avoir une seule solution qui va tout régler. Et parmi les solutions envisagées, en plus bien sûr de la réduction des émissions directes, mais c'est l'idée d'aller capter ce CO2 et d'aller l'injecter dans les sous-sols. Donc dans les récents rapports du GIEC, il y a différents scénarios qui prévoit les émissions de CO2 dans les années futures. Donc évidemment, il y a toute une série de scénarios qui prennent en compte différents choix politiques, différentes technologies qui émergent, plein d'incertitudes évidemment sur le futur. Mais ce qu'ils ont montré, c'est que dans l'ensemble des scénarios, tous ceux qui prennent en compte la capture et le stockage du CO2 permettent d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050, donc émission nette nulle de CO2, ce qui permettrait du coup de limiter l'augmentation de la température et de respecter les accords de Paris à ce niveau-là.
Alors, quand vous parlez d'aller prélever du CO2 et de le séparer des autres gaz qui apparaissent lors de la combustion, on pense à quoi ? On pense à tout ce qui touche au trafic, au chauffage des maisons, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça ?
Alors, quand on pense à le capter, c'est vraiment dans les usines. Donc, on va parler, c'est dans les sites industriels. Ça ne va pas se faire à l'échelle d'une maison, ou en tout cas pas encore à l'échelle d'une maison ou à l'échelle d'un pot d'échappement. Donc, c'est vraiment plus dans des sites industriels. Et alors, comme je vous le disais, il y a aussi des idées de capturer ce CO2 directement de l'atmosphère. Parce que là, du coup, on peut imaginer qu'on peut mettre des sites partout. On n'est plus limité à uniquement où les usines sont implantées. Mais là, c'est plus compliqué parce que, comme je le disais, la concentration de ce CO2 dans l'atmosphère, évidemment 420 ppm, c'est beaucoup trop par rapport à avant la révolution industrielle, mais en termes de concentration relative par rapport à la concentration dans les gaz de combustion, c'est très faible. C'est environ 100 fois plus faible. Et donc, toutes les techniques qui sont des techniques physico-chimiques pour aller capter ce CO2 fonctionnent moins bien quand la concentration est moins élevée. Donc, c'est plus compliqué.
Je continue dans mon raisonnement. Donc, vous dites site industriel. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut s'imaginer ? Est-ce que ça fonctionne avec une pompe qui aspirerait l'air rejeté quelque part ? Comment est-ce que le système se met en place ?
Mais donc, c'est vraiment ça. Vous allez avoir ces gaz de combustion qu'on va faire passer, par exemple, dans des solutions réactives. Parce qu'en fait, donc le CO2 a certaines propriétés physico-chimiques, c'est notamment un acide, et donc il va pouvoir réagir avec des bases. Et donc on fait, par exemple, il y a des solutions réactives qui sont des solutions avec des amines, qui ont une fonction basique, qui vont pouvoir réagir avec ce CO2, et ensuite on extrait vraiment ce CO2 à la sortie de ces gaz de combustion.
J'ai besoin d'encore plus concret. Parce que là, je vous vois faire un mouvement avec la main. On extrait, c'est un peu comme si tout d'un coup, il y avait une sorte de bloc qui apparaissait qu'on réussit à enlever. Je pense que ce n'est pas ça.
Donc, c'est plus, il va réagir, il va former un produit et ensuite, on va récupérer ce produit et le reséparer et on aura du CO2 pur à ce moment-là.
Ça veut dire que le reséparer, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être automatisé ou bien c'est quelque chose qui se fait comme en laboratoire.
Donc c'est automatisé, mais ça va dépendre évidemment si c'est un procédé plutôt chimique qui a fait une réaction chimique avec une amine. Sinon, il y a aussi des procédés physiques qui sont simplement l'absorption du CO2 dans certains matériaux ou bien avec certains liquides. Et dans ce cas-là, c'est simplement une reséparation physique, par exemple en chauffant, des choses comme ça. Mais donc, ça peut être tout à fait automatisé, effectivement. Oui.
Et après,
l'idée, effectivement, c'est ce CO2 d'aller... alors, il est pas nécessairement 100% pur, il peut rester des impuretés. D'ailleurs, quand on l'injecte dans les sous-sols, souvent, on l'injecte avec de l'eau, justement, pour diminuer les risques. Et donc, ensuite, il est vraiment transporté et puis injecté dans les sous-sols.
Transporté comment ?
Donc transporter, à nouveau, il y a plusieurs manières de le transporter, mais la plus courante, c'est vraiment via les pipelines.
Okay. Ce dont vous parlez là, Laurence Mongy, c'est un projet ou c'est quelque chose qui fonctionne déjà maintenant ?
Donc c'est déjà en place, il y a déjà une quarantaine de sites qui font ce qu'on appelle CCS, donc Carbon Capture and Storage. Mais évidemment, il faut que ça se déploie à plus grande échelle. Donc, de nouveau, pour citer le récent rapport du GIEC, ils estiment effectivement qu'il faut multiplier par un facteur 50, je pense, la capacité de ces sites ou augmenter le nombre de sites pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés de neutralité carbone.
Et ça se fait où alors pour l'instant ?
Alors, il y a plusieurs endroits sur la carte du monde. Il y a notamment à peu près la moitié des sites qui sont aux États-Unis. On a des sites en mer du Nord. Il y a un projet de site dans la région de Anvers aussi qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est réparti. Il y en a en Chine. il y en a un peu partout sur la carte du monde. Il y a notamment un des projets pilotes en Norvège, le projet Sleipner. Et donc là, depuis 1996, je pense, oui, c'est ça, presque 30 ans, il y a cette injection de CO2 qui se fait donc de l'ordre de 1 million de tonnes par an qui est injectée. Et donc là, l'avantage, c'est que c'est un site qui existe depuis près de 30 ans. Donc on peut quand même contrôler qu'il n'y a pas du CO2 qui va enfin, redispar, enfin, pas disparaître, mais ça y est, je trouve plus mes mots, qui va s'échapper, voilà, c'est ça qui va s'échapper du site. Donc, ils ont un contrôle permanent et on n'observe pas de fuite ou moins d'un millième de pourcent de fuite sur ce site.
Là, vous parlez évidemment de sites de stockage.
Oui, de sites de stockage, oui.
Et les endroits alors où pour le moment on trie déjà le CO2 pour le séparer des autres gaz, ça se fait, il y a déjà pas mal d'endroits où ça se pratique aussi.
Donc, il y a des projets pilotes aussi, notamment certains endroits qui utilisent le calcaire pour produire de la chaux. Et donc, qui peuvent directement récupérer le CO2 ensuite qui est émis par ce procédé. Donc, c'est à l'échelle pilote. C'est fort aussi utilisé par les industries pétrolières pour récupérer le pétrole. Donc, ce qu'on appelle, ça s'appelle Enhanced Oil Recovery, EOR. Je ne sais pas en français le terme équivalent, mais en gros, la récupération, si vous voulez améliorer du pétrole, l'idée est d'injecter du CO2. Parce que ce CO2 va venir simplement physiquement pousser sur le pétrole et du coup on récupère plus facilement le pétrole et un effet secondaire positif de ça c'est qu'il reste le CO2 reste stocké. Donc dans la majorité des sites de CCS qui sont actuellement en place, la majorité c'est pour de l'Enhanced Oil Recovery.
Raison pour laquelle il y en a autant aux États-Unis?
Voilà, exactement.
Alors l'objectif à terme, c'est de se dire quoi? Que toute usine devrait être dotée d'un système similaire?
On peut penser à ça. Maintenant, évidemment, ça coûte deux fois plus cher d'aller construire une usine qui va pouvoir capter le CO2 par rapport à celle qui ne la capte pas. Donc ça va toujours être évidemment un compromis avec les coûts. Il faut aussi, je pense, insister sur le fait que ça reste des mesures transitoire. On est aussi dans tout un développement d'énergie renouvelable, d'amélioration de l'efficacité énergétique, réduction de la consommation et des choses comme ça. Maintenant, il y a toute une série de procédés qu'on appelle hard to abate, donc qui sont compliqués, pour lesquels il est compliqué de trouver des alternatives aux procédés actuels qui émettent beaucoup de CO2. Et donc, pour compenser tous ces procédés-là, la capture et le stockage fait partie des solutions intermédiaires, on va dire, à moyen terme.
Quand vous parlez de ces procédés, vous pensez à quoi?
Notamment dans les procédés de construction, les cimenteries, oui, principalement ce genre de domaine-là, mais voilà, il y a toute une série de procédés. Bon, j'ai pas la liste en tête là, mais ce genre de procédés-là, oui.
Alors ça, évidemment, c'est ce qu'on évoquait, c'est la mise en place sur le terrain. Alors vous, au quotidien, en tant que chimiste, qu'est-ce que vous faites là-dedans?
Oui, donc moi au quotidien, ce à quoi je m'intéresse, c'est plutôt l'effet que les réactions chimiques peuvent avoir sur les dynamiques de stockage du CO2. Donc, une fois qu'on l'a capturé, donc il y a beaucoup de procédés physico-chimiques qui interviennent lors de la capture. Moi, je ne travaille pas en particulier là-dessus. Mais une fois qu'on l'a capturé et transporté, on l'injecte dans les aquifères salins, par exemple, ou dans les nappes de pétrole qui sont appauvries. Et on s'intéresse à ce qui va arriver à ce CO2 une fois qu'il arrive dans la formation géologique. Et donc là, on sait que le CO2 a plusieurs propriétés intéressantes. Et une de ces propriétés très intéressantes, c'est que malgré que ce soit un gaz, hein, il va augmenter la densité du liquide dans lequel il se dissout. Donc il va augmenter la densité du pétrole, par exemple, mais il va aussi augmenter la densité de l'eau. Et donc ça veut dire que si on se retrouve avec de l'eau, on va dire de l'eau, mais c'est en réalité de la saumure, hein, dans les aquifères salins, donc de l'eau très salée. Donc on se retrouve avec des zones où on a de l'eau salée concentrée en CO2 qui est dense, et en dessous on a de l'eau salée sans CO2 qui est moins dense. Donc on se retrouve finalement avec quelque chose de plus dense au-dessus de quelque chose de moins dense, et ça c'est ce qu'on appelle une instabilité convective. Donc on va avoir ce qui est plus dense qui coule simplement dans ce qui est moins dense. Si vous pensez à vous servez un verre de grenadine, mais au lieu de mettre la grenadine dans le fond, vous mettez d'abord l'eau, puis vous mettez tout doucement la grenadine au-dessus, vous allez voir des doigts de grenadine plus denses qui coulent dans l'eau. Ben c'est exactement ce qui va se passer avec ce CO2. Vous le mettez dans l'aquifère salin. Au départ, il est moins dense, donc il monte en haut de l'aquifère salin, mais ensuite il se dissout dans l'eau, il augmente la densité de cette saumure, de cette eau, et donc vous avez des doigts d'eau salée riche en CO2 qui coulent dans la saumure. Donc quel est l'intérêt de ça? Ben, si vous avez des doigts, c'est des mouvements de convection, c'est des mouvements d'ensemble du fluide qui accélèrent le mélange et qui donc vont accélérer le procédé. Donc vous allez augmenter la vitesse à laquelle le CO2 se dissout dans l'eau et ça c'est tout à fait bénéfique pour le procédé de séquestration, de stockage, parce qu'il sera du coup plus rapide et donc plus sûr.
Alors ce dont je me souviens de mes lointaines leçons de chimie, c'est que a priori rien ne disparaît, hein, c'est, tout se transforme. mais donc ça veut dire que ce CO2 stocké dans ces aquifères salins va donc, vous le dites, se mélanger, ce qui va le répartir de manière plus uniforme. Mais est-ce qu'à un moment il pourrait y en avoir de trop?
Donc ça, c'est une bonne question. Effectivement, vous avez on a ce qu'on appelle la solubilité. Donc la solubilité, c'est la concentration maximum qu'on va pouvoir y mettre. Et donc, mouvement de convection ou pas, vous n'allez pas changer la quantité totale que vous allez pouvoir y mettre. C'est simplement, vous allez accélérer le procédé. Donc ce sera fait plus vite et donc de manière plus sûre. Mais rien qu'avec la convection, on n'accélère pas. Effectivement, la quantité qu'on va mettre, elle est fixée mais par la température de l'aquifère, par la pression de l'aquifère et par sa composition. Et donc là, on en arrive au rôle des réactions chimiques qui, elles, peuvent peut-être permettre d'en séquestrer plus, si elles le transforment, par exemple, mais peuvent aussi changer les propriétés de convection, et notamment accélérer encore la convection, et donc rendre le procédé encore plus rapide.
Ok. C'est là-dessus que vous travaillez ?
Oui, donc moi, c'est là-dessus que je travaille. Donc, je regarde comment une réaction chimique générique, et on regarde en fonction des différentes propriétés des réactifs par la suite, peut accélérer le procédé de séquestration et peut augmenter la quantité qu'on peut en mettre. Donc si on pense à des réactions chimiques, de nouveau le CO2 étant acide, il peut réagir avec des bases qui seraient naturellement présentes dans le milieu, ou bien on peut aussi, on sait que le CO2 il existe sous différentes formes quand il est dissous dans l'eau, et une de ces formes c'est le carbonate qu'on va retrouver notamment dans le carbonate de calcium qui est le calcaire, hein. Et donc l'idée c'est que si on se trouve dans un aquifère où le pH est plutôt élevé, c'est-à-dire un aquifère plutôt basique, le CO2 va se retrouver sous forme de carbonate et pourrait réagir avec des ions calcium qui sont présents. On formerait du coup du carbonate de calcium, hein, le calcaire, qui est solide, qui précipite, et vous avez du coup un solide inoffensif qui est stocké.
Ça veut dire, si je comprends bien, que en fonction des lieux de stockage, la situation à laquelle vous êtes confronté est à chaque fois totalement différente.
Oui, tout à fait. En fonction de la composition de l'aquifère salin, par exemple, et vous avez tout à fait raison, ça va complètement changer. Donc, par exemple, il y a un projet pilote. Hein, vous me demandiez tout à l'heure si ça se faisait déjà. Il y a un projet pilote qui a été fait notamment en Islande, qui s'appelle le projet CarbFix. Donc là, ils ont injecté du CO2 dans des roches basaltiques. Et les roches basaltiques ont la propriété d'être composées notamment de beaucoup de calcium et d'ions fer aussi. Et donc ces ions calcium vont réagir avec le CO2 pour former ce carbonate de calcium. Et ils ont surveillé le site et ils se sont rendus compte qu'en moins de 2 ans, 95% du CO2 avait été transformé sous forme de solide. Donc ce qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait et qui est lié justement à la composition particulière de ces roches basaltiques. Ce ne sera pas le cas dans d'autres aquifères, enfin dans des aquifères avec d'autres compositions.
Comment est-ce qu'on injecte du gaz dans de la roche ?
Alors, généralement, il est injecté sous forme... Il est très pressurisé, donc il est sous pression. Et donc, il est sous forme supercritique la plupart du temps quand on l'injecte. Donc, c'est un fluide supercritique. Ça va être un fluide qui va avoir des propriétés intermédiaires à celles d'un liquide et d'un gaz. Mais donc, vous pouvez imaginer ça comme une sorte de liquide sous pression qui est injecté. Mm-hmm. Ou il peut aussi être injecté sous forme de gaz. Ça dépend des conditions de l'aquifère qu'on regarde.
Mais qui ne risque pas pour autant d'abîmer la roche, de faire exploser. Je suppose qu'il y a aussi un moment où l'espace est rempli.
Donc effectivement, il y a une surveillance des pressions. Hein. L'idée n'est pas d'aller augmenter la pression jusqu'à ce que l'aquifère, jusqu'à ce que la roche casse. L'idée, c'est vraiment de mettre la pression suffisante pour que ce CO2 soit injecté dans l'aquifère et reste coincé, si vous voulez, sous la roche imperméable qui ferme ce qu'on appelle le caproc, qui ferme, entre guillemets, l'aquifère salin. Et ensuite, le procédé de dissolution dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que ce CO2 se dissolve dans l'eau, mais ça marche aussi dans le pétrole, le fait qu'il s'y dissolve, du coup, diminue la pression, puisque dès qu'il est dissous, il est plus sous forme de gaz ou de fluide supercritique qui augmente la pression.
Et donc, vous le disiez à l'instant, pour le pétrole, ça fonctionne de la même manière. Donc, ça veut dire que le CO2 qui est injecté et qui, d'une part, aide du coup à faire monter le pétrole à la surface. Alors, on se trouve peut-être un peu dans un cercle vicieux, là, avec du CO2 qui fait pousser ce qu'on va utiliser pour produire plus de CO2, mais et qui s'y mêle. Donc, ça veut dire qu'il est extrait en même temps que le pétrole qui va être retiré à ce moment-là.
Donc, il y a une partie du CO2 qui se dissout dans le pétrole. Effectivement, on parle de... à peu près 5-10% en masse qui va s'y dissoudre, et le reste, l'idée étant que le reste reste séquestré. Ouais.
Ça veut dire aussi que du coup, l'espace dans lequel on l'injecte doit malgré tout rester clos.
Oui, tout à fait. Ce sont des aquifères avec des roches caproques, là, ces roches imperméables. Et donc, il y a toute une série de mécanismes de séquestration. Donc, il y a la séquestration, on va dire, mécanique, parce qu'il est coincé sous cette roche imperméable, mais il y a aussi le fait qu'il va rester, la séquestration résiduelle, il va rester coincé dans les pores de l'aquifère salin. Donc, l'aquifère salin, vous pouvez voir ça comme un milieu poreux, hein, comme une éponge avec les différents pores. Donc, il reste également coincé là-dedans. Il se dissout dans le liquide qui est dans ses pores, et en plus, potentiellement, il peut réagir. Donc, il y a toute une série de mécanismes par lesquels on s'assure de la sûreté. Il ne faut évidemment pas faire ça n'importe où non plus.
Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer que y a des gens qui, là maintenant, sont en train de chercher des endroits où on pourrait remettre du CO2? Est-ce qu'il y a vraiment un travail de recherche de terrain pour trouver des lieux qui seraient appropriés?
Oui, en tout cas, j'ai envie de dire que je l'espère. Je pense que les sites sont... Il y a beaucoup de sites qui sont identifiés aussi comme étant potentiels. Maintenant... probablement que les premiers sites où ça va se faire sont les anciennes nappes de pétrole, parce qu'il y a déjà toute l'infrastructure qui est en place. Même si les aquifères salins donc représentent environ 80 à 90% de la capacité potentielle par rapport aux nappes de pétrole, la technologie est déjà en place pour les nappes de pétrole, ce qu'elle n'est pas pour les aquifères salins.
C'est-à-dire, quand vous dites la technologie est déjà en place?
Mais parce qu'on a l'habitude d'aller injecter des choses et d'aller récupérer des choses dans les sous-sols pour les nappes de pétrole, moins pour les aquifères salins. Donc, c'est plus la technologie est en place au niveau de l'industrie pétrolière qui a déjà été chercher ce pétrole ou qui a déjà injecté, qui a déjà le savoir-faire finalement de travailler avec des fluides dans les sous-sols.
Okay. Oui, parce que aller chercher, oui, mais je ne voyais pas l'apport injection.
Pour aller chercher, effectivement, il va falloir creuser. Et donc, on peut imaginer que toute la technique est similaire. Et pour ce qui est de l'EOR, là, donc pour l'amélioration de la récupération du pétrole par injection de CO2, c'est pour ça que c'est déjà en place. C'est à ce niveau-là, évidemment, que c'est déjà en place.
Alors, c'est une technologie qui devrait... a priori qui est porteuse, hein. Si je comprends bien ce que vous expliquez, Laurence Rongy, ça veut dire que on doit s'attendre à voir peut-être une généralisation de ces pratiques, et si oui, à quel terme?
Donc, à nouveau, si je reprends les études du rapport du GIEC, l'idée serait effectivement d'arriver à multiplier le nombre de sites qui existent actuellement, donc qui est de l'ordre de 40, à le faire arriver à un nombre de 1000 environ pour pouvoir capter ce CO2. Donc, je pense que l'année dernière, il y a environ 400 millions de tonnes qui ont été captées et stockées. Et donc, effectivement, il faut augmenter cette quantité, je crois d'un facteur 50 environ, d'après ce qu'a prévu le GIEC pour atteindre cette neutralité carbone. Alors, de toute façon, ce sont des nombres avec des prévisions. On sait qu'ils ont tous leurs incertitudes. Mais l'idée est quand même là qu'il faut déployer cette technique si, en tout cas, on veut qu'elle puisse jouer son rôle dans la réduction des émissions de CO2, bien sûr, en parallèle avec toutes les autres chose qu'on entend bien sûr. Ce n'est pas la solution universelle, c'est plus la pierre à l'édifice pour essayer d'arriver aux objectifs.
pour vous en tant que chercheuse, j'ai l'impression que vous vous trouvez dans une situation qui est peut-être plus, plus confortable que les chercheurs qui font des constatations sur le terrain et voient les choses dégénérer. Vous, vous travaillez à une forme de solution. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez effectivement comme ça?
Oui, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de me dire parce que voilà, on a chacun un besoin d'une raison de se lever le matin aussi. Et c'est vrai qu'on entend énormément de choses qui ne sont pas très positives, faut bien l'admettre. Et voilà, on entend beaucoup de gens qui développent de l'éco-anxiété. On voit beaucoup de gens qui, du coup, commencent à s'en foutre et à dire, ah ben, si c'est comme ça, ça sert quand même à rien ce que je fais. Et donc, j'ai peur qu'avec des discours trop négatifs, ça ne mène pas à grand-chose de positif, si je pouvais m'exprimer ainsi. Et donc, c'est vrai que moi, de mon côté, j'essaye de me dire que je peux faire une recherche, même si on est très, très loin de l'application. Moi, je fais quand même des recherches très fondamentales, il faut être honnête ici. Mais j'espère que ça peut contribuer un petit peu à une amélioration et en tout cas à développer des solutions en parallèle, évidemment, avec tous les autres. C'est collaboratif, la recherche.
Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous en êtes où dans votre travail? Vous dites que c'est une recherche très fondamentale. Ça veut dire quoi? Que vous testez les réactions du CO2 avec des tas de choses, histoire de voir comment ça fonctionne?
Oui, ce qu'il y a, c'est que moi, je teste ça sur ordinateur. Donc, évidemment, je peux changer les paramètres comme je veux. Je peux juste voir quels sont les paramètres optimaux ou je peux voir quel est l'effet de chaque réaction que j'envisage sur, par exemple, le flux de dissolution, donc la quantité de CO2 qu'on peut dissoudre par unité de temps et par unité de surface. Mais bien sûr, ça reste quelque chose de fondamental dans le sens où je ne prends pas la géochimie d'un aquifère salin en particulier en compte, avec toutes les conditions de pression, de température, de résistance des roches. Ce n'est pas une étude sur le terrain. Donc c'est pour ça que je voulais dire que ça restait encore fondamental à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, j'essaye aussi de parler de cette technique aux gens, parce que voilà, tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est la capture et le stockage. Et un peu d'essayer d'attirer l'attention là-dessus. Oui.
Ça veut dire en fait que vous êtes d'une certaine manière en train de chercher l'environnement idéal pour aller ranger du CO2?
On pourrait dire ça comme ça, mais à nouveau, là, je pense qu'il faudrait vraiment développer des modèles qui tiennent aussi vraiment compte de la géochimie, ça, c'est qui est très important. C'est plus aussi d'attirer l'attention sur le fait que quand on cherche ces sites, il faut tenir compte de l'influence des réactions chimiques, qui n'étaient pas toujours tenues en compte dans les modèles actuels. Voilà.
Ça veut dire aussi qu'il y a eu parfois des mauvaises surprises?
Des mauvaises surprises
Par exemple, un site qui aurait été choisi et qui amènerait une réaction chimique négative, enfin quelque chose qui serait problématique.
Pas à ma connaissance, au contraire, la surprise a plutôt été positive avec Carbfix, où je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que tout le CO2 soit minéralisé en 2 ans. On estimait généralement le temps géochimique plutôt à des centaines, voire des milliers d'années. Donc c'est plus une surprise positive, voilà. À ma connaissance en tout cas.
Okay. Ça ne veut pas dire que c'était en Islande, ou en Islande. Ça ne veut pas dire qu'on va aller remplir l'Islande de CO2 pour tout transformer en calcaire.
Non, mais ça veut dire que les roches basaltiques sont clairement des candidates. Maintenant, ça représente pas une quantité. Enfin, si, c'est tout ce qui est pris, j'ai envie de dire, mais ça représente pas non plus l'ensemble de la. Des formations géologiques disponibles. Évidemment, il y a seulement une petite quantité de disponibilité.
Ceci dit, c'est intéressant, effectivement, quand vous dites, voilà, ce qui est important, c'est de faire savoir que cette technologie existe, etc. Parce que c'est vrai que quand on parle réchauffement climatique, il y a vraiment, et c'est normal, le focus qui est mis sur ce que chacun peut faire au quotidien, ce que l'industrie peut faire, ce que, les effets négatifs de chaque élément. Et souvent, on a tendance à, enfin en tout cas moi j'entends particulièrement le discours du « mais la technologie pour aider à réduire, à récupérer, elle n'est pas du tout au point ». Donc là, ce que vous nous dites, c'est « non, c'est pas vrai, il y a quand même déjà certaines choses qui sont mises en place et qui fonctionnent ».
Oui, je pense que la technologie est au point aussi. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui sont en place. Je pense qu'il y a la capacité géologique. En tout cas, c'est estimé être suffisant. C'est estimé être un procédé relativement sûr aussi. Bon, pour autant qu'on le fasse pas n'importe où, évidemment, dans des sites bien choisis. Maintenant, c'est clair, pour que ce soit mis en place, enfin, c'est quelque chose qui coûte cher. On estime pour l'instant, je crois, à 100, 125 euros la tonne de CO2 séquestrée. Il faut mettre en place les sites où on peut le faire. Donc, il faut compter chaque fois une dizaine d'années pour mettre un site en place. Et il faut aussi tenir compte ben, voilà, des besoins en eau, en électricité. C'est évidemment des problèmes complexes. Mais je pense que la technologie est en place. Et l'idée, c'est pas du tout de faire ça à la place de toutes les autres solutions qu'on entend, bien sûr, hein. C'est plus, bah, faisons-le en plus, pour atteindre cette neutralité carbone.
Est-ce que dans ce domaine-là, ce domaine technologique, à part le fait d'isoler le CO2 et de le stocker, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pour le moment sont testées et peuvent représenter des possibilités?
Bah notamment, il y a aussi l'utilisation de ce CO2. Donc après l'avoir capté, on peut évidemment le stocker, mais on peut aussi penser à l'utiliser. Et donc ça aussi, ça se fait déjà, bien sûr, hein, l'utiliser bah, directement dans les extincteurs, dans les boissons pétillantes. Enfin, ce CO2 est utilisé dans des procédés chimiques aussi. On pense aussi à l'utiliser pour refaire ce qu'on appelle des e-fuels. Donc, à partir du CO2, bah, faire la réaction inverse finalement que celle de combustion dont on a l'habitude, et à partir du CO2, reformer des hydrocarbures. Donc oui, il existe toute une série d'autres choses, bien sûr, d'autres domaines de recherche là-dedans. Oui, à partir du captage, oui.
Et qui sont assez prometteurs.
Alors, qui sont aussi mis en place déjà actuellement, mais qui doivent également se développer et qui sont aussi toujours liés au coût. C'est toujours la même chose. Enfin, faire un e-fuel, ça coûte beaucoup trop cher à l'heure actuelle comparé au prix du pétrole. Donc, fatalement, c'est pas encore rentable. Mais oui, c'est certainement prometteur dans le sens où ça existe, certaines choses existent déjà et pourraient être déployées. Maintenant, en termes de proportion, je pense que le stockage est plus important en termes de proportion que l'utilisation. Donc l'idée, une fois qu'il est capté, serait quand même que la majorité soit stockée par rapport à l'utilisation, quoi.
Alors vous disiez tout à l'heure, Laurence Mongier, vous faites une recherche fondamentale, vous travaillez face à votre ordinateur. C'est pas un peu frustrant de ne pas être sur le terrain, de pouvoir tester tout ça en labo, etc., et d'être face à un écran?
Alors oui, bien sûr, c'est vrai que ce serait bien d'avoir plus de contact avec la réalité du terrain. Maintenant, on fait certaines expériences en laboratoire aussi, donc avec notamment le laboratoire d'Anne de Witt, ma collaboratrice dans le service de chimie physique. Et là, on teste aussi la dissolution de ce CO2 dans des solutions réactives. Évidemment, pas à l'échelle de l'aquifère salin, on se retrouve à l'échelle du laboratoire. Donc, on a des cellules qui sont plutôt de l'ordre de 30 cm, hein. On ne parle pas d'une échelle d'un aquifère salin. Mais on peut quand même utiliser ces expériences pour comparer avec nos modèles et du coup, bah, pour valider les modèles théoriques qu'on développe devant l'ordinateur.
Oui, donc vous avez quand même un petit peu les mains dans le cambouis.
Voilà, bon, pas moi directement. Mais je regarde des gens qui ont les mains dans le cambouis, oui.
Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler là-dessus?
Ah, c'est une bonne question. Moi, je me suis toujours fort intéressée à ce qui était la description mathématique et la modélisation des réactions chimiques et du transport. Et en fait, je me suis progressivement intéressée à des systèmes qui étaient plus en lien avec l'environnement, bah, simplement bah, pour répondre aux préoccupations actuelles, comme beaucoup de gens, je pense, et pour essayer de lutter contre ce sentiment d'impuissance et essayer de, voilà, de faire des choses en lien avec l'environnement. Donc, on travaille sur d'autres systèmes aussi, de systèmes de synthèse de matériaux, et on essaye de développer une modélisation qui peut répondre à certaines questions en lien avec l'environnement.
Je vais peut-être vous poser une dernière question alors sur ce qui vous attend dans les mois et les années à venir. Est-ce que ce projet, il est vraiment en cours pour l'instant, ou est-ce que vous aboutissez là à quelque chose de plus ou moins fini et que vous pourriez vous relancer dans autre chose? Est-ce qu'il y a une autre orientation qui est envisagée?
Alors, il est toujours en cours. Il y a toujours des effets qu'on peut tenir en compte. Mais quelque chose qui serait intéressant aussi, je pense, c'est de se tourner vers des modèles plutôt à haute pression, qui tiendraient compte justement plus de la réalité physique du terrain, d'un aquifère salin ou d'une ancienne nappe de pétrole, et voir du coup comment le système réagit à ça. Parce qu'en fait, donc quand on est sous haute pression, on parle de système non idéal. Donc ça s'oppose à un système qu'on va appeler idéal. Et donc, imaginez, c'est un peu comme quand vous êtes dans le métro. S'il y a beaucoup de monde dans le métro, vous êtes serrés les uns contre les autres, vous êtes obligés d'interagir avec les gens qui sont autour de vous. Alors que si vous êtes plutôt en système dilué, où il n'y a pas trop de monde dans le métro, chacun agit un peu comme il veut. En gros, c'est un peu la même chose pour les molécules. Quand on est dans des systèmes qui sont idéaux, on a un système d'équations qui sont caractéristiques des systèmes idéaux, qui font certaines approximations, notamment que les molécules ne vont pas interagir entre elles directement, à part via les réactions chimiques, ça c'est autre chose. Par contre, quand on est dans des systèmes à haute pression, c'est comme votre métro qui est bien rempli, les particules vont nécessairement être obligées d'interagir entre elles, et là on doit développer des systèmes qu'on appelle non idéaux, où on tient compte de ces interactions intermoléculaires. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien, à un moment, être amenée à regarder des systèmes. Je l'ai déjà fait un peu en partie, mais dans des systèmes non réactifs. Et donc, j'aimerais bien être amenée à coupler les deux. Donc, regarder à la fois la présence de ces interactions et des réactions chimiques dans les sous-sols. Ouais.
Parce qu'évidemment, les interactions ont un effet sur les réactions chimiques.
Alors, ça va sans doute, plus que probablement, oui, affecter la cinétique de réaction. Et les travaux étudient surtout l'influence sur les coefficients de transport, donc sur la diffusion. Sur le mouvement des molécules. Donc j'aimerais bien coupler les deux modèles ensemble.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Laurence Ronguin de m'avoir accordé cette interview. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour un autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What?